Alors, il n'est pas tout à fait l'heure, mais je vous propose quand même de commencer un peu plus tôt, car la matière prévue, cette fois-ci, est un tout petit peu plus longue. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, on a abordé la conséquence du péché sur la fraternité. Le Seigneur agrée l'offrande d'Abel et il n'agrée pas, il n'accepte pas l'offrande de Caïn. Caïn en fut tout irrité et il eut le visage abattu. Et puis il y a cette très belle question du Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es irrité et pourquoi est-ce que tu as ton visage abattu ? Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage ? C'est toute la question liée à l'élection, le choix de Dieu. La raison du choix de Dieu nous échappe, parce que Dieu est Dieu, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que quand il choisit, c'est pour le bien de tous. Je vais vous donner un exemple très simple, très concret, qui concerne la distribution des talents. Moi, j'ai aucun talent musical, aucun talent de chant, mais il y en a d'autres. J'ai une sœur vierge consacrée qui a un talent musical extraordinaire, elle est violoncelliste. Alors face à ce talent, j'aurais pu me dire, mais pourquoi elle et pas moi ? Et ce que je découvre, c'est qu'au fond, quand elle joue, ben je suis d'autant plus bénéficiaire du don qui lui a été fait parce que je la vois jouer, je la regarde jouer et je profite de sa musique. Eh bien, il en est ainsi de l'élection. Quand Dieu choisit quelqu'un pour accomplir quelque chose qu'il demande, quand il agrée une offrande, c'est pour le bien de tous. Et donc, ce qu'on est appelé à vivre, ce qu'on est appelé à faire, malgré la trace du péché originel qui suscite la convoitise, qui provoque la jalousie, ce qu'on est appelé à faire, c'est à entrer dans cette élection en rendant grâce. Rendre grâce pour le choix de Dieu et du coup j'entre dans cette grâce de l'élection. C'est une histoire compliquée parce qu'on voit aujourd'hui qu'elle pose toujours question. Le choix du peuple de Dieu, comment le comprendre, et on voit que ça suscite, ça continue de susciter nombre d'objections, de jalousies, et puis on voit à l'intérieur même de l'Église, quand un est choisi et l'autre se dit mais pourquoi lui et pas moi, eh bien on peut voir que ça peut susciter de l'irritation, ça peut susciter le fait d'avoir le visage abattu, ça peut susciter de la jalousie. Mais ô combien Dieu nous donne sa grâce pour transfigurer cette convoitise qui nous habite dans une action de grâce pour le choix qu'il pose pour le bien de son peuple. Il sait pourquoi et voilà, ça nous invite à poser un acte de foi, de charité et d'espérance. Alors ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est un autre moment très important de l'alliance de Dieu avec son peuple, parce que c'est précisément cette alliance qui nous éclaire sur le mystère de l'Immaculée Conception. Alors quel est ce moment? Vous le connaissez, c'est le moment où Dieu donne à Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, à son peuple, les 10 paroles, ce qu'on appelle le décalogue. Alors vous savez que les 5 premiers livres de la Bible sont appelés en hébreu Torah. La Torah, ça veut dire la loi. Il est beau de se dire que ce livre, comme on l'avait vu lors de notre première rencontre, ce livre commence par ces termes « au commencement Dieu », par Dieu qui donne la vie. Cela veut dire que la loi, l'objectif de la loi est de nous donner la vie. Alors on reçoit la vie dans la mesure où on l'entend comme une parole de Dieu, comme une parole de notre Créateur et de notre Sauveur. C'est comme ça qu'on ouvre notre cœur pour l'accomplir. Et quand on fait l'expérience de l'accomplissement de cette loi de Dieu, eh bien on découvre à quel point elle nous vivifie. Elle fait de nous de plus en plus des vivants. Donc ce deuxième temps important dans l'histoire du salut, après la création, après l'épreuve du péché, eh bien nous avons cette alliance que Dieu conclut avec le peuple juif en lui donnant sa loi. Alors je reprends le texte avec vous parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est à quel point ce qu'on appelle le décalogue et la cohérence des 10 commandements, la cohérence des 10 paroles, nous propose un chemin. D'une parole à l'autre, on est introduit à l'intérieur de notre cœur pour redécouvrir le Seigneur qui nous parle et qui nous donne sa parole de vie, hein, dont on a parlé au tout début. Alors je prends le chapitre 20 de l'Exode, verset 1, Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Alors le Seigneur se présente, comment est-ce qu'il se présente ? En rappelant ce qu'il a fait pour son peuple. Il a libéré son peuple de la servitude, et donc sa parole sera une parole de libération. Si celui qui s'adresse à moi est mon libérateur et mon sauveur, eh bien la parole qu'il va me donner est une parole libératrice, est une parole de salut. Alors quelle est cette première parole, en tout cas telle qu'elle se trouve exprimée dans le livre de l'Exode ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Alors quand je parle de ce texte à mes étudiants, j'aime d'attirer leur attention sur le fait qu'il n'est pas dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi ». Si la référence c'était nous-mêmes, ça voudrait dire que le risque c'est de rester enfermé dans l'idole que nous sommes pour nous-mêmes. Si la référence ultime c'est nous-mêmes, on ne va pas être libéré de l'idolâtrie. Or la parole elle est très précise. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant le Seigneur ton Dieu. » Donc la référence est bien Dieu lui-même qui nous libère de l'idolâtrie. Comment est-ce que cette idolâtrie peut se vivre ? Elle peut se vivre en acte, elle peut se vivre en parole. Donc il dit « Tu ne te feras pas d'image sculptée, rien qui ne ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ni sur la terre ici-bas, et dans les eaux au-dessous de la terre. » Tu ne te feras pas d'image sculptée. Alors, est-ce que c'est vrai pour nous chrétiens, ça ? Depuis l'incarnation, on a la chance de pouvoir nous représenter Dieu parce que il s'est fait chair. Donc, il s'est donné à connaître, il s'est donné à écouter, à entendre, il s'est donné à voir, il s'est donné à toucher, il s'est donné à sentir et il se donne aussi à goûter à travers l'Eucharistie. Donc, la foi chrétienne nous donne de nous représenter le Christ. Cependant, ce commandement est quand même d'actualité pour nous. Comment est-ce qu'on le prend ? Eh bien, il s'agit de recevoir ces représentations qu'on a de Dieu, cette icône, cette belle image de Jésus miséricordieux, de Sœur Faustine, etc., etc. Toutes les représentations qui nous aident à aborder un peu plus le mystère de Dieu sont bonnes dans la mesure où elle nous aide à mieux connaître Dieu. Il s'agit toujours d'entrer dans une connaissance plus grande. Il ne s'agit pas de s'attacher à l'image pour elle-même. Ça, ce serait précisément de l'idolâtrie. Il s'agit de découvrir à travers cette image ce Dieu qui ne cesse de se révéler à moi et par rapport à qui je n'ai pas d'image fixe. Je n'aurai jamais fini de comprendre qui il est. Je n'aurai jamais fini de me représenter son amour infini. Le visage de Jésus, il nous est donné à connaître à travers des icônes, à travers des représentations, et pourtant, ce visage doit être infiniment beau, infiniment bon, il doit représenter infiniment la vérité. Et donc, il s'agit d'entrer dans cet infini. Quand on prie avec l'aide d'images, donc ces images sont des moyens pour nous donner d'entrer dans une connaissance plus grande de Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas, car moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les fautes des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Mes amis, l'idolâtrie coûte cher, il faut le savoir. Donc quand on s'arrête sur les images qu'on se fait de Dieu, alors pas seulement les images qu'on se fait de Dieu, quand on met quand on a comme référence première une autre réalité que Dieu elle-même, eh bien cette idolâtrie, elle va nous empêcher de nous accomplir. Et cet empêchement d'accomplissement, eh bien, il va avoir un retentissement. On le voit aujourd'hui très simplement par rapport à la société de consommation dans laquelle nous sommes. Elle représente bon nombre d'idolâtries. On consomme à l'excès et on voit comment cette consommation nous prive de la grâce de libération et donc de liberté. Alors non seulement elle nous prive, nous, notre génération, mais le risque, c'est que les conséquences qui peuvent être d'ordre écologique, d'ordre climatique, vont effectivement peser sur les générations suivantes. Donc l'idolâtrie, quelle qu'elle soit, a des conséquences. On avait déjà vu ça par rapport au péché originel, par rapport à Caïn, nos actes ont des conséquences. Caïn, vous rappelez, le sang de Caïn qui crie, donc la terre, elle est marquée par nos actes mauvais, par nos actes d'idolâtrie. C'est pourquoi la terre crie. C'est une des raisons pour lesquelles le pape s'engage par rapport à l'écologie. C'est pas simplement une question qui appartient à la société. En fait, c'est une question qu'on doit prendre au sérieux dans notre démarche de foi. Quel est notre rapport à la terre? Est-ce qu'on la reçoit comme un don? Est-ce qu'on la reçoit comme un don? Ou bien est-ce qu'on se l'approprie pour consommer? Vous voyez? Eh bien, si on la reçoit comme un don, c'est parce que celui auquel on se réfère premièrement, c'est pas la terre, c'est pas l'eau, mais c'est Dieu lui-même. Et donc le Seigneur nous apprend, nous donne de nous apercevoir qu'en fait, on n'est pas l'ultime propriétaire, même si on est des propriétaires. Non, on dispose pour faire du bien. Fondamentalement, c'est cela. Donc il y a cette conséquence qui vient peser sur quatre générations. Mais rassurez-vous, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui sont de vrais adorateurs de Dieu, eh bien, il y a une bénédiction qui va reposer sur des milliers. Il est dit, Dieu fait grâce sur des milliers. Alors le chiffre 1000, les milliers, c'est toutes les générations. Donc à choisir, on a plutôt intérêt à être fidèle. Si la bénédiction retentit sur toute l'humanité, ça vaut la peine. Et cette fidélité, elle peut se vivre de façon très secrète. La personne malade dans sa chambre, qui est un peu triste, qui perd espoir, etc., la personne isolée, eh bien, l'acte de foi de cette personne peut porter sur des milliers. Et je crois, plus c'est profond, plus l'extension est importante. Plus c'est caché et secret, ça veut dire plus c'est profond, plus la portée missionnaire sera importante. Donc voilà ce qui concerne la fidélité de Dieu en acte. Ensuite, il est question du rapport au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit donc dans le livre de l'Exode? Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Alors je vous repose la même question que tout à l'heure. Est-ce que ce commandement est valide pour nous? On a eu la grâce de recevoir le nom de Dieu à travers le nom de Jésus, celui qui sauve. Donc le nom nous réfère à ce que Dieu fait, à ce qu'il opère, et il nous donne le salut. Vous savez que dans la tradition juive, le peuple juif prononce une fois par an le nom de Dieu. Est-ce que vous savez quel jour cela correspond? C'est le jour du Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Donc après avoir jeûné, après avoir prié toute une journée, eh bien le peuple de Dieu s'octroie cette grâce de pouvoir prononcer le nom de Dieu. Cela nous invite quand même à réfléchir un tout petit peu sur la façon dont on prononce le nom de Dieu. Est-ce qu'en prononçant le nom de Dieu, on se réfère à cette réalité qu'est le salut? Quand je dis Jésus, quand je parle de Jésus, est-ce que je me mets en présence du Christ? Est-ce que lorsque je parle du Père, lorsque je parle de l'Esprit-Saint, est-ce que je signifie à travers mes mots la réalité à laquelle je me réfère? Alors je ne pourrai jamais l'exprimer totalement, il n'y a que Dieu lui-même qui peut s'exprimer totalement, entre autres à travers l'Eucharistie, en donnant sa vie, mais je peux avoir suffisamment de crainte et de référence pour pouvoir aborder quelque peu la réalité qui est exprimée à travers le nom de Jésus. Alors cela peut nous donner aussi de réfléchir à la façon dont, par exemple, dans le cadre de la messe, nous reprenons ces prières qui peuvent vous sembler dans un premier temps répétitives. On peut penser au Notre Père, on peut penser au Seigneur prends pitié, au Kyrie, et la répétition, elle a un sens très beau, elle a précisément ce sens de l'approfondissement. Chaque fois que je dis « mais Seigneur prends pitié », est-ce que j'habite de plus en plus ce que je dis? Ou bien, est-ce que je récite ? Est-ce que je suis la messe en suivant tout ce que les personnes disent, parce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Non. Est-ce que la répétition nous donne précisément, à travers les mêmes mots, d'habiter beaucoup plus en profondeur ce que nous disons ? Quand je dis « je crois en Dieu le Père », est-ce que je pose un acte de foi ? Est-ce que quand j'ai dit « je crois en Dieu le Père », est-ce que mon rapport au Père a été renouvelé ? Et ainsi de suite pour tous les articles du Credo. Donc le rapport à Dieu, si on veut entrer dans la messe, si on veut habiter la messe, le rapport à la parole de Dieu, c'est ainsi qu'il faut la recevoir. Je la reçois de Dieu et donc dans une dynamique de révélation. Alors ensuite, après nous avoir situé par rapport à notre relation à Dieu, le décalogue nous situe par rapport à l'espace et au temps. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Le sabbat, on en a déjà un peu parlé. C'est le jour où Dieu chôme, où Dieu se repose. Le verbe hébreu exact, c'est il se suspend. Il se suspend. Il arrête de créer quelque chose de nouveau pour continuer à donner la vie. Et donc, c'est un jour où Dieu se pose à nouveau dans sa création. Puisqu'il n'y a rien de nouveau, il continue de se donner. C'est un jour de gratuité, précisément. C'est le jour où il nous est donné de contempler cette présence de Dieu à l'intérieur de sa création. Et cette contemplation nous donne accès au don de notre vie, à qui nous sommes en vérité. Donc il s'agit de se souvenir du jour du sabbat pour pouvoir entrer dans cette contemplation. Alors nous ne célébrons pas le sabbat, c'est une grâce propre au peuple juif, et pourtant, la signification du sabbat, elle nous est pleinement donnée dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour, et particulièrement le dimanche. Dieu vient se reposer dans sa création, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Alors, comment est-ce qu'on entre dans ce repos de Dieu ? Vous savez que le samedi saint, le Seigneur est déposé dans un tombeau pour venir chercher Adam et Ève, pour leur donner la vie. Donc, le sabbat, il est accompli dans l'Eucharistie. Mais cela suppose que nous entrions dans ce repos de Dieu qui nous donne la vie. Ce repos de Dieu qui est libérant. Il s'agit de prendre un tout petit peu de recul par rapport à notre quotidien. C'est important de pouvoir prendre du recul. Ça montre que nous sommes libres, nous ne dépendons pas de nos activités. Sinon, on serait des activistes. Non. Les activités par rapport auxquelles on s'engage peuvent nous édifier, évidemment, mais on ne dépend pas de ce que l'on fait. La première reconnaissance, elle nous vient de cette relation à Dieu, et qui s'étend ensuite sur la relation à nos frères. Quand on habite la gratuité de Dieu, quand on est dans l'action de grâce, le premier élan devrait être de vouloir le communiquer à nos frères, à ce frère et à cette sœur qui sont assis à côté de moi à la messe. C'est un peu le sens de la paix qu'on se donne, mais c'est appelé à dépasser, à déborder des murs de cette basilique. Comment on entre en relation avec nos frères et nos sœurs. Donc, ce qu'on découvre le jour du sabbat et ce que nous, on reprend le dimanche, c'est que l'espace et le temps sont un don infini qui nous est fait. Qu'au principe de l'espace et du temps, il y a Dieu. Je reçois l'espace et le temps comme je reçois ma vie. Et du coup, la question qui se pose, mais comment, si je la reçois, comment est-ce que je peux la donner ? Comment est-ce que je peux donner du temps ? Comment est-ce que je peux donner de l'espace à travers l'hospitalité ? Je suis responsable de l'espace et du temps. Je n'ai pas à me laisser enfermer dans l'espace et le temps. Ça nous arrive souvent, on n'a pas assez de temps, on court à travers l'espace et le temps, surtout à Paris. Et voilà, il est bon, un jour par semaine, de s'arrêter pour apprendre à réhabiter cela. C'est ce qui nous rend profondément libres. Alors vous comprenez, du coup, que les prochains commandements précisément concernent notre relation au prochain. À partir du moment où on s'est accordé à la grâce de Dieu au plus profond de nous-mêmes, eh bien cette grâce, on va la communiquer aux premiers concernés qui sont nos parents. Hein, nos parents nous collent à la peau, inévitablement, hein, puisque on bénéficie de leur code génétique, à travers notre code génétique, eh bien, leur histoire elle est intégrée dans la nôtre, hein, donc les parents nous collent à la peau. Quand on est trop fatigué, quand on est trop usé, quand on est trop dans l'activité, hein, les premiers qui nous héritent, souvent, ce sont nos parents, en disant « mais si j'arrive pas à faire ça, c'est à cause de l'éducation que j'ai reçue, etc. etc. » Hein, on remonte souvent par rapport à nos origines. Or, après le sabbat, grâce à l'action de grâce, il nous est demandé d'honorer son père et sa mère. Alors, honorer son père et sa mère, le verbe honorer, il est aussi très beau, il veut dire glorifier. Hein, c'est le verbe qui est utilisé pour notre relation à Dieu. Que veut dire honorer son père et sa mère? Ça veut dire être fidèle à la vocation qui est la nôtre. Quand on est fidèle, grâce à l'Eucharistie, à notre vocation de baptiser, eh bien, à ce moment-là, on est dans l'action de grâce de la vie qu'on a reçue. Quand on reçoit la vie de Dieu, on la reçoit aussi de ceux qui nous l'ont donnée à travers la procréation. Et ça, c'est important, demeurer dans cette action de grâce. C'est ce qui permet de ne pas tuer. Hein? Si je ne suis pas dans l'action de grâce par rapport à ma propre vie, ce qu'on a vu hier par rapport à Cain et Abel, la convoitise, la jalousie nous guette. Hein? Et à ce moment-là, on veut prendre la place de l'autre. L'autre est le signe de ce qu'on n'est pas. Hein? Ça, c'est la difficulté quand on ne reçoit pas le nom que Dieu nous donne. Eh bien, à ce moment-là, on veut prendre la place de l'autre. Donc, qu'est-ce qui vient après le « honore ton père et ta mère » si on entre dans cette logique-là? C'est « tu ne tueras pas ». Tu ne tueras pas, tu ne mettras pas la main sur la vie de ton frère. Tu ne mettras pas la main sur les relations. Tu ne commettras pas d'adultère. Hein? Tu ne voleras pas, tu ne mettras pas ta main sur les biens de ton frère. Hein? Donc, on voit que voilà, tout ce qui suit découle au fond de la manière dont on se situe par rapport à l'action de grâce. Et puis il y a ce dernier commandement que j'aime beaucoup parce qu'un jour, en préparant le cours, j'ai été très distraite, vous savez, c'est le « tu ne convoiteras pas ». Hein, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Et puis tout à coup, on lit « ni son bœuf, ni son âne ». Et puis à ce moment-là, je préparais mon cours et je me dis « oh mince, j'ai pas encore mis la crèche ». Donc j'étais un peu distraite. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait une distraction. Parce que qu'est-ce que les 10 commandements nous donnent de découvrir fondamentalement? C'est qu'on a besoin d'être sauvé. Il est difficile de ne pas tuer. Alors vous allez me dire « oui, mais j'ai jamais commis de meurtre ». Enfin, j'imagine que c'est le cas, j'espère, de la majorité d'entre vous, j'en sais rien, mais voilà, on n'a jamais... Mais en revanche, on peut tuer à travers les paroles, on peut tuer à travers des gestes, on peut tuer aussi à travers des pensées. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que Jésus vient nous dire dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, tu n'as pas commis d'adultère, ou tu ne commettras pas d'adultère. Oui, mais l'adultère, il est là dès que tu regardes une femme pour la désirer, hein, dès que tu regardes pour t'approprier. D'accord. Donc, quand on lit très sérieusement les commandements, on se dit c'est difficile, hein. Et surtout celui qui concerne la convoitise. Hein, on convoite volontiers la mission de l'autre, on convoite volontiers sa maison, sa famille, son épouse. Dire oh, il a de la chance. Certainement, il est plus heureux que nous. Hein, nos voisins, voilà, c'est toujours mieux ailleurs. Hein, vous voyez, voilà, ça c'est la convoitise. Et on voit que ça nous est quand même très présent. Et donc on voit la nécessité de ce salut. Et c'est là où j'en reviens au bœuf et à l'âne. Donc quand on les met à la crèche, eh bien il est bon de se souvenir de la manière dont Jésus vient nous sauver. Comment est-ce qu'il vient nous sauver? En nous rejoignant au cœur de notre humanité, en prenant notre chair. Et vous savez qu'il est déposé dans une mangeoire. Donc comment est-ce qu'il vient nous sauver? En s'incarnant, en vivant avec nous, en se donnant à écouter, à voir, à toucher, à sentir et à manger. On est entré dans la convoitise en mangeant du fruit de la connaissance, de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc Jésus vient nous sauver. en se donnant à manger. C'est assez magnifique, en fait. Il me dit, il sait bien qu'on est incapable de nous sauver par nous-mêmes. La loi ne suffit pas. Il nous faut quelqu'un qui donne sa vie pour nous. Et donc, là, on est entré dans l'avant. Et il est bon de reconnaître, au fond de notre cœur, cette nécessité du salut pour l'accueillir de façon nouvelle. Quand on va contempler l'enfant Jésus. Vous savez, quand vous voyez un petit enfant, le réflexe en général des gens, c'est on a envie de le manger, quoi. Ça n'a rien de meurtrier, mais c'est un enfant a quelque chose de très tendre, de quelque chose de très pur, de très beau. Et Jésus, il précède notre désir. Avant même que nous le désirions, eh bien, il est là pour se donner à nous de façon extrêmement humble, pour que nous puissions le prendre dans nos bras, pour que nous puissions, à travers toute l'année liturgique, grandir avec lui. On le verra enfant, on le verra adulte, on le verra dans tous les mystères de sa vie, pour cheminer avec lui. Et celle qui nous introduit dans ce cheminement, c'est la Vierge Marie. Alors il ne faut pas oublier Saint Joseph, que je crois qu'il y faut les deux, comme ce qu'on a vu au moment de la Genèse. La communion, elle se vit à travers l'altérité homme-femme. Et c'est au cœur de cette communion que Jésus va être accueilli, qu'il va pouvoir grandir. Alors, je prends encore 5 minutes, puis je vous laisserai le temps de vous préparer pour l'Eucharistie. La loi, l'alliance, elle va être portée par les prophètes. Le rôle des prophètes dans la Bible, c'est de nous situer par rapport à cette alliance. Est-ce que oui ou non, on est fidèle à cette alliance? Alors vous savez qu'il n'est pas évident d'être un prophète. D'ailleurs, ils ont du mal à répondre à leur vocation. On voit comment ça résiste. Vous allez voir comment Moïse, vous regardez au chapitre 3 et 4, etc., les combats que Moïse traverse avant de dire oui, jusqu'au bout, il dira « envoie quelqu'un d'autre ». Tout mais pas moi. La même chose pour Jérémie, la même chose pour... Jérémie disait « mais pourquoi moi? Je suis un enfant, ça, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et Isaïe, il a dit « mais éloigne de moi cet appel en fait parce que l'appel de Dieu nous responsabilise. Et annoncer la force de l'alliance, c'est prendre le risque que elle soit refusée parce qu'on est impuissant face à la liberté humaine. Et donc la liberté peut l'accueillir, mais la liberté peut aussi renoncer à cette alliance. Et on voit comment la vie des prophètes porte ce renoncement-là. Donc déjà à travers les prophètes se profile au fond la vie de notre Seigneur, la vie de Jésus. Et le dernier élément que je voulais évoquer avec vous, je le fais rapidement pour qu'on puisse entrer dans l'évangile demain. Le dernier élément, ce sont les psaumes. Je vous disais que il est important que nous puissions guérir de notre convoitise, guérir de nos passions, de nos affections, comme dit Saint Ignace, nos affections désordonnées. Et les psaumes nous proposent un chemin assez exceptionnel pour ces guérisons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ceux qui sont là régulièrement pour les vêpres, et évidemment les sœurs, mais il y a des horreurs dans les psaumes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce verset un peu paradoxal. Fracasse la tête de mes ennemis. Fracasse la tête de mes ennemis. Alors non seulement on prie ces psaumes, mais mes sœurs, vous chantez cela, vous chantez des horreurs. Il faut pouvoir le reconnaître, et c'est très important. Les psaumes nous apprennent à prier en esprit et en vérité. Cette prière nous apprend à reconnaître qu'il y a plein de sentiments qui nous habitent, et que ces sentiments, ils sont appelés à être pris dans un dialogue avec Dieu. Celui qui est au principe de notre vie, celui qui s'est fait chair, se fait chair aussi en nous lorsqu'on lui confie nos colères, lorsqu'on lui confie notre haine, lorsqu'on lui confie nos tristesses, nos échecs, etc. Les psaumes, qui sont l'expression de l'histoire du peuple juif, fait de réussite et d'échec, et de confession du péché, hein, nous apprend au fond hein, à entrer dans la grâce de l'incarnation. Hein. J'ai un ami prêtre qui était allé dans une communauté de moniales donner une retraite sur les psaumes. Et donc il avait dit, mais vraiment, ce sont des horreurs. Et une des sœurs a dit, oui, mais si je ne priais pas ça, si je ne chanterais pas ça, je ne pourrais pas vivre avec ma sœur. Et je crois qu'il y a quelque chose de très vrai pour chacun d'entre nous. Il est normal, hein, c'est la trace du péché originel en nous, que de temps en temps, hein, on a envie d'étrangler notre frère, notre sœur, parce qu'il nous agace. Les psaumes sont là, plusieurs fois par jour, pour nous aider à entrer dans la louange de Dieu. Dire que tout peut être un lieu de louange. Pourquoi ? Parce que Jésus non seulement a prié chacun de ces psaumes, mais a vécu. Il a vraiment éprouvé jusqu'au bout hein, tout ce qui est dit dans ces psaumes. Hein, et d'ailleurs, on le voit au moment de sa mort. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Hein, c'est le cri du psaume. Alors, il le prie en aimant jusqu'au bout. Et donc, quand on est face à ce « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» du psaume, eh bien, on découvre à quel point le Seigneur nous rejoint à travers toutes ces situations. Il vient nous sauver. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on continuera de contempler ce salut, hein, ce salut dont la Vierge Marie est l'expression parfaite, donc demain en abordant du coup les béatitudes. Voilà, merci de votre attention.
Confions Laetitia à la Sainte Vierge les vérités qu'elle vient de nous dire pour qu'elle puisse féconder nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.